vivant dans des atmosphères caractérisées par des violences, des turbulences, où nous sommes craints que les libertés garanties par la Constitution ne soient plus respectées. De puissants groupes de pression contrôlent l'ensemble des moyens d'information. La radio, la télévision, la presse, le monde dit culturel, le cinéma, le théâtre, la philosophie, les historiens réagissent avec une touchante unanimité face aux différents problèmes sociaux, économiques ou politiques. Et de même, avec le même ensemble, ils s'acharnent contre les personnes qui refusent la pensée unique. Ainsi, Christophe Blocher, le seul conseiller fédéral qui incarne la volonté de sauvegarder nos souverainetés nationales, est l'objet de l'attaque d'un lynchage médiatique. Christophe Blocher, avec qui les membres de notre comité en 1997 avons conclu une convention qui reflète une parfaite communauté d'idées, soit quant aux problèmes de société, soit quant à la souveraineté nationale. Et dans la foulée, peu après, l'UDC du Valais-Roman a été fondée, avec qui nous avons également conclu une convention en des termes identiques de ceux que nous avons convenus avec M. Christophe Blocher. Ce qui signifiait que les représentants de l'UDC comme ceux du mouvement chrétien conservateur, leurs élus, leurs responsables, doivent défendre les idées qui sont consignées dans ces accords. Je voudrais ici saluer Oscar Preisinger. Ici présent, son seul conseiller national, qui avec courage, avec brio, avec talent, pendant toute la législature, a défendu nos idées, nos principes, notamment lors de la votation sur l'avortement, sur le partenariat homosexuel, sur l'indépendance de la Suisse dans le cadre des votations sur la libre circulation des personnes, sur la convention de Schengen, sur la naturalisation facilitée. Enfin, je tiens à féliciter Oscar Preisinger, ici présent, et à lui souhaiter plein succès pour les prochaines échéances. Comme j'ai dit plus haut, nos libertés sont menacées, en particulier la liberté d'expression. Peut-on encore aujourd'hui s'exprimer librement sur l'avortement, sur l'homosexualité, sur la souveraineté nationale, sur l'identité, sur la prétendue loi antiraciste, sur le racisme lui-même? Ce sont des sujets devenus sensibles. Et il y a aujourd'hui un nouveau tabou, la responsabilité humaine sur le réchauffement climatique. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Pascal Bernardin, éminent spécialiste en matière de climat. M. Pascal Bernardin, qui est docteur en sciences mathématiques, ancien élève de l'École polytechnique de Paris, auteur de deux livres majeurs, L'Empire écologique et Machiavel pédagogue. Il a collaboré avec de nombreux journaux français, notamment le sel de la Terre, National Hebdo, l'Action française 2000. Monsieur Bernardin intervient également sur Radio Courtoisie, qui est une des rares radios libres en France. Monsieur Bernardin s'intéresse également au problème de la spiritualité globale. Il prépare un ouvrage à ce sujet sur les institutions internationales sur Vatican II. Je remercie donc M. Pascal Bernardin d'avoir accepté notre invitation. Elle va nous entretenir de ce sujet d'une brûlante actualité, Le réchauffement climatique, cette arme de destruction massive utilisée par le mondialisme. Et je vous cède la parole.
Monsieur le supérieur du district, monsieur le prieur, messieurs les abbés, mesdames, messieurs, je vais donc vous parler de la question du réchauffement global dans ses dimensions d'abord scientifiques, ce sera la première partie de mon exposé, ensuite dans les dimensions purement politiques, économiques, et ensuite j'aborderai ce qui est en fait l'enjeu fondamental, qui est l'enjeu spirituel. Toutes les questions qui tournent autour donc, de la spiritualité globale, de l'éthique globale, et on verra les questions philosophiques. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des questions scientifiques. Je me permets quand même une petite remarque. Donc, comme vous venez de l'entendre, notre liberté d'expression diminue, autant en Suisse qu'en France. Sachez qu'aux États-Unis, contester l'origine anthropique, donc l'origine humaine, du réchauffement global, dans l'État de Californie, peut devenir un crime de cet État. C'est-à-dire qu'il sera interdit de contester la réalité du réchauffement, de l'origine anthropique du réchauffement global. C'est tout de même extraordinaire, surtout quand vous entendrez ce que je vais vous dire. Donc cette première diapositive, je pense que tout le monde voit, même les gens du fond. Donc sur cette première diapositive, vous voyez le climat à partir d'aujourd'hui. Ici, vous avez l'année 1900, donc 1500, à 2000. Donc ici, nous sommes au Moyen-Âge et les temps modernes et l'époque contemporaine. Donc vous voyez sur cette diapositive qui sort d'un rapport officiel des Nations Unies, plus précisément de l'IGBP 1995, comme on dit, c'est le groupe de travail créé par l'ONU sur le sujet, c'est tout à fait officiel. Vous voyez donc sur cette courbe que le climat change en permanence. Alors, peu importe l'échelle qu'il y a sur la partie droite, je vous donne le document tel qu'il figure dans le rapport, peu importe cette échelle, puisqu'il y a cette échelle peut être plus ou moins exacte, un degré là, un degré en plus, peu importe, vous voyez que le climat change en permanence. Ça, c'est le premier point fondamental, le climat change. Aujourd'hui, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à l'époque médiévale. Nous n'avons même pas réatteint les températures de l'époque. Que remarque-t-on d'autre sur ce schéma? C'est qu'il y a eu donc, ce qu'on appelle l'optimum médiéval climatique. Autrement dit, à cette époque, le climat était optimal. C'est là que tout se passait pour le mieux, en particulier pour l'agriculture, donc c'était une époque qui dépendait bien sûr grandement de l'agriculture, et c'est aussi l'époque où les Vikings ont colonisé le Groenland. Ensuite, vous avez ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire. Petit âge glaciaire, donc refroidissement considérable des températures, et puis la sortie du petit âge glaciaire. La sortie du petit âge glaciaire, qui s'est faite comment? Qui s'est faite par un choc. Un choc thermique sur l'ensemble de la planète. Un choc qui a été très brutal, situé à peu près l'année 1950-1960. Donc une période constante, un choc, et après, encore une période constante. Donc on retient les choses suivantes, le climat change, le climat a été plus chaud qu'il n'est aujourd'hui, et il y a eu un choc brutal en 1950. Ça, c'était l'état de la science en 1995, dans le rapport d'IGBP 1995. Donc tout le monde était d'accord, même l'IGBP. Même cet organisme chargé par l'ONU qui publie ce rapport dont on entend tellement parler maintenant. Alors bien évidemment, il y avait un gros problème. Il y avait plusieurs gros problèmes. Enfin, il y en avait un qui était que il n'y avait rien d'extraordinaire. On n'avait même pas atteint les températures de l'optimal climatique médiéval. Et un second problème, c'est que la sortie de la glacière donc, se fait à partir de cette époque-là et se fait dans les années 50-60. Donc on sort de la glacière là et ensuite on sort à cette époque-là. Or, ici, ce n'est sûrement pas le gaz carbonique qui est en cause. Ce n'est pas possible. Et à cette époque-là, on est en tout début de la grosse industrialisation qui a eu lieu après la guerre de 39-45. Mais là, non plus personne ne soutenait que c'était du gaz carbonique pour des questions de temps de réaction, parce que le temps que la planète chauffe, ce n'était pas possible. Donc, si vous voulez, on n'a pas atteint les températures médiévales et on a commencé à sortir du pétrole glaciaire avant, bien avant l'industrialisation. Donc le CO2 n'y est pour rien. C'est le document officiel de l'IGP 94. Alors ensuite, les données sont retravaillées. Alors on verra comment elles sont retravaillées et on arrive sur cette courbe. Donc ça, c'est la courbe que vous connaissez. Je vais vous la montrer avec une échelle un petit peu plus réduite. Donc c'est la même que la précédente. C'est la même, mais l'échelle a été plus réduite. Et donc là, on voit que, eh bien, il y a une augmentation de température qui est très brutale à partir de 1980. Alors on constate néanmoins un autre problème. Sur cette courbe, on constate un autre problème, c'est qu'entre 1920 et 1940, il y a eu encore un choc thermique très important, on a un cas de l'expliquer. Sur cette période, il y a encore eu une diminution de température, qu'on n'est pas capable d'expliquer. Et puis ensuite, donc, la fameuse croissance de la température dont on a tellement parlé. Mais même sur cette courbe, vous avez des choses qui sont inexplicables. Cette augmentation de température est inexplicable. Cette diminution est également inexplicable. Peu importe, c'est le CO2 qui est responsable de tout ça. Alors, ces données sont obtenues à partir de stations météorologiques qui sont sur Terre. On peut voir, en particulier en France, on les voit le long des autoroutes. Je ne sais pas où elles sont en Suisse, mais on peut les voir. Alors, ces stations comportent un très grand nombre de problèmes sur lesquels je reviens. Il y a une autre manière de mesurer la température, c'est par satellite. Alors, les satellites, eux, peuvent prendre des points qui ne sont pas contaminés. Alors, on verra quels sont les modes de contamination de la température, mais peuvent prendre des points qui ne sont pas susceptibles d'être contaminés. Les corrections qu'il y a à faire sur les données prises par satellite sont bien moins importantes que celles qui ont été obtenues sur les stations météorologiques. Alors, que remarque-t-on sur les données obtenues par satellite depuis 77, en fait, c'est 77, c'est le début, donc, de ces données, on n'a rien à dire. Eh bien, on remarque que la température a été rigoureusement constante entre 78 et, on va dire, 87. Rigoureusement constante. Et ça, c'est absolument pas contesté, ce point n'est absolument pas contesté par quiconque. Donc, si on revient à la température au schéma précédent. Donc, 60, on va dire 78-96, revenons à ce qu'on a vu avant. 78-96, ça ne correspond absolument pas. Il y a donc une différence très importante entre les données obtenues par satellite et les données obtenues par les stations météorologiques. Alors après cette date-là, il y a un fort choc thermique qui correspond à l'épisode des Niño et les oscillations. Les oscillations de ce choc thermique. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire sur ces oscillations. Pour les scientifiques ici présents, on peut constater que ces oscillations montrent que la rétroaction est négative. Parce qu'on a cette forme-là, ce qui est une forme de rétroaction négative. Pour les autres, c'est aucune espèce d'importance. Autrement dit, il n'y a pas d'amplification des actions extérieures. Mais peu importe. Donc, une température constante, et un choc de 0,3 degrés. Donc voilà ce qu'on observe. Un choc thermique.
Qui n'a aucun rapport.
Qui, encore une fois, n'a aucun rapport avec la théorie de l'effet de serre. La théorie de l'effet de serre vous dit que la température aurait dû croître linéairement. Mais pas du tout. La température a subi un choc thermique suite à l'épisode de Niño, et il semblerait qu'on soit en train de retourner à l'origine. Toujours est-il que la température était constante entre 78 et 87. Dans le même cours avec une échelle pour réduite pour vous montrer en comparaison à ce qu'on a vu précédemment. Donc voici. Alors, si on prend maintenant uniquement les températures dans les stations météorologiques européennes, qui sont les seules pour lesquelles on ait véritablement un historique qui soit suffisamment long, il y a également les stations américaines, mais l'historique est moins long. Donc, stations européennes, Europe plus aussi, on constate encore une fois que la température a été constante, mais cette fois-ci depuis 1900. Depuis 1900, avec un choc thermique. Là. Aucun rapport avec la théorie de l'effet de serre, hein, qui nous dit que la température devrait croître linéairement. Aucun rapport.
Alors, me direz-vous, oui,
d'accord. Mais on constate qu'il y a des chocs thermiques. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a effectivement des chocs thermiques. D'abord, quelle est l'origine ? Alors, sur cette diapositive, vous avez la température, le CO2. Vous avez également la température. Donc, l'anomalie de température, ça signifie les variations de la température. Vous avez la température en bleu qui, voilà le cycle global de la température. Le cycle solaire. Donc ici, vous avez un indicateur de la longueur du cycle solaire. Donc ça représente le cycle solaire, donc vous savez que les taches solaires ont un cycle de 11 ans. Mais ce cycle n'est pas un cycle fixe. Des fois c'est 10 ans, d'autres fois c'est 12, 13. Alors si vous portez la longueur de ce cycle, eh bien, vous obtenez, donc voilà la longueur, mais l'échelle est vers le bas, peu importe, c'est un indicateur de la longueur. Ce cycle, voici le cycle de tâche solaire, si vous portez ces tâches solaires, ce cycle de tâche solaire, et l'anomalie de température, vous constatez que eh bien, l'un suit l'autre.
Donc, bien évidemment, on n'ira pas prétendre que c'est la température terrestre qui influe sur la longueur du cycle solaire.
Bon, tout est possible. Donc, la preuve semble être administrée. Cette preuve est connue depuis longtemps, puisque vous voyez, ça c'est un article, pour peu importe les auteurs, vous voyez qu'il s'arrête, à cette époque-là. Donc c'est connu depuis les années 85, je crois que la publication est 92, je crois.
Donc c'est connu depuis longtemps. Alors que nous répondent
les tenants de la théorie sur la chauffement global. Ils nous répondent certes, ils ne peuvent pas contester, c'est sûr, je vous montrerai d'autres choses ensuite. Ils ne peuvent pas contester, mais que répondent-ils ? Ils répondent oui, mais vous n'êtes pas capable d'expliquer la raison pour laquelle la longueur du cycle solaire influe sur l'anomalie de température, sur la déviation de température.
Donc on a un argument qui est absolument surréaliste.
Ces gens vous disent, en substance, voilà. Voilà ce que l'expérience montre. Voilà ce que la réalité vous montre. Nous avons une idée,
précisément un modèle informatique, un modèle mathématique, donc ces fameux modèles qui tournent sur les ordinateurs,
qui nous dit que ça va chauffer à cause du CO2. Vous savez expérimentalement que c'est dû à la longueur du cycle solaire. Vous n'êtes pas capable de l'expliquer, donc c'est nous qui avons raison.
C'est absolument extraordinaire. En termes philosophiques, j'ai appelé ça la mathématisation de l'idéalisme.
C'est-à-dire, vous avez une représentation du monde, vous la mathématisez avec les plus gros ordinateurs de la planète, et personne ne peut vous contester.
C'est extraordinaire comme hypothèse.
Donc, la question, c'est comment est-ce que le soleil influe sur la température. Alors déjà, en
95, on connaissait la réponse. On connaissait la réponse, mais on n'en avait pas la preuve expérimentale. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais que je sois dit. Donc, c'est le champ solaire, donc les particules émises par le soleil, qui arrivent sur la Terre, et ces particules créent ce qu'on appelle les noyaux de condensation, c'est-à-dire des petits noyaux à partir desquels les nuages vont se former. Donc vous avez des particules, des flux de particules, vent solaire, qui arrivent sur la Terre, qui créent des noyaux de condensation, ces particules créent des noyaux de condensation, qui vont créer les nuages, et bien évidemment, à partir du moment où il y a des nuages, ça modifie totalement tout le système climatique terrestre. Donc ça, c'était connu, les articles existent depuis au moins les années 90-95, mais il reste encore à le prouver expérimentalement. Et ces expériences sont en train d'être faites, donc au CERN, que vous connaissez, donc c'est quelque chose de très sérieux, avec les principales, enfin avec beaucoup d'institutions scientifiques européennes. Donc les travaux sont projetés et vont bientôt avoir lieu. Mais on a déjà des éléments d'expérience qui nous montrent qui vont tout à fait dans ce sens-là. Alors continuons donc sur la longueur du cycle solaire. Donc vous avez ici des indicateurs de la longueur du cycle solaire. Alors, peu importe quels sont ces indicateurs, je vais vous le dire pour que ce soit dit, mais en fait, peu importe. Toujours est-il que ici, vous avez des indicateurs qui permettent de reconstruire le nombre de tâches solaires observées. Alors, il y a un indicateur qui est très connu, ce sont les chroniques chinoises. Vous savez que les Chinois ont des archives très très anciennes et ils observent les tâches solaires. En particulier, on peut les reconstituer par ceci. Mais il y a des méthodes plus scientifiques. Donc l'observation directe, ça c'est pour les temps récents. On considère que tout ce qui a été fait en dehors d'Europe n'a aucune valeur. Donc là, c'est en Europe. Ensuite, Antarctique, donc les lectures qui ont été faites à partir des glaces antarctiques. Donc il faut savoir, ce flux solaire, ces particules, vont être piégées dans les glaces. Bon, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont réagir sur certains éléments chimiques et vont créer des isotopes qui vont être piégés dans la glace. Donc, on peut elles sont piégées en Antarctique et au Groenland. Donc ici, vous voyez l'Antarctique, et ici, vous voyez le Groenland. Et donc, on voit bien, sur ce schéma, l'optimum climatique médiéval, le minimum glaciaire et la sortie du petit âge glaciaire. On retrouve la courbe du début. Donc c'est le Soleil qui est responsable de tout ça. Alors on continue. Oui, on continue. Toujours sur le Soleil. Donc le Soleil, donc reconstitution, alors par d'autres biais, peu importe, reconstitution donc sur les 8000 dernières années, ici, enfin, on en voit que 7000, mais peu importe. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a une activité solaire en ce moment qui est absolument unique dans les 8000 dernières années. Donc, aujourd'hui, il se passe quelque chose qu'on n'a jamais vu. Une autre reconstitution qui montre également qu'il y a une activité solaire très très importante. Ici, vous avez l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire. Donc, on a en ce moment une activité solaire qui est très 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 intense. Certains donc affirment qu'elle est la plus intense depuis 8000 ans. Ce qui n'est pas un pari. Donc, voilà fondamentalement l'origine du réchauffement. Alors, une autre reconstitution, cette fois-ci en millions d'années. Vous voyez, les échelles de temps sont très très différentes, les méthodes de reconstitution sont très très différentes. Tout à l'heure, on les a reconstituées dans les glaces. Ici, c'est sur des forages très profonds, des forages géologiques très profonds. Et ces forages permettent de reconstituer les rayons cosmiques et les températures. Alors vous allez me dire, mais les rayons cosmiques, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? Vous avez parlé du soleil, vous avez parlé du vent solaire, d'accord ? Mais pas des rayons cosmiques. Alors, toujours est-il, commençons par regarder ces deux courbes. Déjà, on voit qu'elles sont en opposition l'une avec l'autre, ici. Alors, les rayons cosmiques ici, et les températures qui sont ici. Donc ici, on a reporté les rayons cosmiques en les intervertissant, et donc on constate que eh bien, les températures suivent les rayons cosmiques. Là encore, personne ne verra nous attendre que ce sont les températures qui influent sur les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des particules qui viennent de l'espace et qui arrivent sur la Terre. Alors pourquoi est-ce que, quel est le lien entre ces rayons cosmiques et le vent solaire? Bon, on le voit bien, ce sont des particules, les deux sont des particules qui vont interagir. Les rayons cosmiques interagissent avec le vent solaire et donc modifient ces noyaux de condensation, ces fameux noyaux de condensation qui créent qui sont la source des nuages. Donc, ces rayons cosmiques influent sur le vent solaire. Voilà pourquoi on les retrouve et on voit que la température sur les époques géologiques eh bien, suit les rayons cosmiques. Donc maintenant, on a le cœur de la machine climatique. Le cœur de la machine climatique, c'est quoi? C'est le soleil, bien évidemment. C'est évident, c'est le soleil. C'est le soleil. Et les particules solaires et le vent solaire interagissent. Et le gaz carbonique, là-dedans, il n'y a quasiment aucun effet. Il n'y en a pas. Il ne faut pas dire qu'il n'y en ait aucun. Il y en a très peu. Bien, donc je vous redonne cet élément. Voilà le cycle solaire, la longueur du cycle solaire. La même chose avec d'autres approximations. Le nombre de sunspots, c'est-à-dire une tache solaire. Donc on voit que c'est pas quelque chose d'extraordinaire en ce moment. Et sur des époques géologiques. Donc voilà ce qu'il en est, voilà quel est le fond de la machine climatique. Alors, ici, la courbe, donc maintenant j'en reviens, maintenant que je vous ai détaillé ce qu'il en est en fait, pourquoi il y a ce choc, pourquoi il y a ces chocs thermiques, ce fameux choc-là, que personne ne s'en gêne. J'en reviens à la courbe que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc ça, c'est la courbe de la surface globale, sur l'ensemble de la Terre. Alors cette courbe, comme je vous l'ai dit, est établie à partir de stations météorologiques réparties sur l'ensemble de la planète. Et aux États-Unis. Alors aux États-Unis, vous aviez, jusqu'à il y a peu de temps, une courbe qui avait à peu près cette forme-là. Enfin, qui était même, si mes souvenirs sont bons là, très très similaire à celle-ci. Et puis quelque chose de très récent, vous avez sans doute pas entendu parler, puisque ça date, si mes souvenirs sont exacts, du 20 août, un Canadien, alors il faut que je vous précise pour quelle raison un Canadien, parce que le Canadien, si vous étudiez la question de l'effet de serre, vous verrez que les Canadiens sont très en pointe contre l'effet de serre, mais pour une raison évidente, parce qu'on nous dit que l'effet de serre, c'est une catastrophe, et que la planète a chauffé. Mais mettez-vous à la place des Canadiens, des Sibériens et des Nordiques. Vous avez sûrement une opinion tout à fait différente de la chose. Alors, les Canadiens, eux, ne sont pas du tout prêts à avaler la crise de l'effet de serre, pas du tout. Et vous avez un scientifique qui a donné cette courbe-là. Et un Canadien a repris ses travaux uniquement sur les États-Unis, on verra pourquoi tout à l'heure, et a obtenu cette courbe-là. Alors, il y a beaucoup de choses à regarder sur cette courbe-là. Alors, moi, je vois bien les choses, vous les verrez, parce que du coup, on est sûrement moins bien, mais c'est que l'année la plus chaude, elle est là. C'est pas les années 2000, dont on nous a dit que c'était la décennie la plus chaude depuis. On sait trop quand. Non, pas du tout. Alors, que je vous précise, hein, ces courbes sont sur le site du GISS, qui est un site totalement favorable à la théorie de l'effet de serre. Donc, il n'y a pas aucune contestation possible. Alors ça, c'est une correction qui a été faite ces jours-ci. Il y a une quinzaine de jours. Alors, vous constatez que la température la plus élevée est de 1934, je crois. Ensuite, vous constatez qu'il y a trois températures plus élevées et deux températures plus élevées ici.
Donc on a eu une période très chaude à cette époque-là, et aujourd'hui on n'a rien d'extraordinaire par rapport à ce qui se passe là. Alors comment est-ce que, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment est-ce que cette correction a été apportée. Il y a encore un mois, pour les États-Unis, on avait cours qui avait cette forme-là, et on vous disait, vous voyez, c'est bien la preuve que ça chauffe. Je vous ai expliqué, oui, ça chauffe, ça, il n'y a pas de contestation, ça chauffe à cause du soleil. Mais est-ce que ça chauffe autant que vous nous dites ? Non, non, voilà la courbe qu'on a maintenant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, cette courbe que vous voyez là, la courbe du bas, donc, bien évidemment, enfin, vous l'avez peut-être vue sous sa forme. Sous cette forme-là, vous la connaissez sans doute des gens parmi vous qui l'ont déjà vu, à la télévision en particulier. Donc ça s'appelle la courbe en forme de crosse de hockey, puisque, en exagérant un petit peu, vous avez quelque chose qui est plat ici et quelque chose qui part comme une crosse de hockey. Bien, donc cette courbe est très connue, et donc quand ce travail scientifique a été publié, eh bien, le Parlement, la Chambre américaine, s'en est saisi et a demandé une contre-expertise. Qui a amené cette chose-là. Donc c'est ce Canadien qui a été chargé de cette contre-expertise, et il a, en particulier, il a fait un rapport auprès de l'Académie américaine des sciences. Alors qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur ? Mais il a dit la chose suivante. Donc il devait prendre les données qui avaient été utilisées pour faire cette courbe, il devait regarder quelle était la méthode statistique qui avait été utilisée, et il devait donner son opinion. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, c'est reporté tel quel dans cette conférence qui a été donnée devant l'Académie américaine des sciences. Il a dit qu'il y a eu une obstruction totale pour avoir les données. Je n'ai pas pu avoir les données. Il a fallu qu'il y ait des ordres provenant du gouvernement américain. Il a dû ensuite obtenir la manière, la méthode de traitement. Ça a été très difficile, mais également, il y a eu des obstructions systématiques. Alors, pourquoi insister sur la manière, sur la méthode de traitement ? Parce que, là je parle pour les scientifiques, pour les statisticiens en particulier, eh bien, le mode de traitement qui a été utilisé à partir de ces données, enfin à partir des données que je vais vous présenter, est un mode de traitement nouveau. Alors les statisticiens ici présents savent ce que ça veut dire. Je garderai mon opinion pour moi, pour ne pas tomber sous le poids de la loi des diffamations que je ne connais pas en Suisse. Enfin, en tout cas, pour un scientifique, ça paraît pas très sérieux. On sait très bien que les statistiques sont une science très difficile. On peut faire dire beaucoup de choses à une série statistique, mais quand le mode de traitement est nouveau, il faut s'inquiéter. Donc ce monsieur a repris les données, on va voir tout à l'heure, et il a obtenu ça. Il a obtenu cette courbe. Et alors, donc, l'Institut américain, totalement favorable à la thèse de l'ESSR, eh bien, a maintenant ce sens-ci, cette courbe. Alors, vous l'avez pour les États-Unis. Bon, parce que, comme je vous l'ai dit, ce Canadien a eu beaucoup de mal à obtenir les données. Il faut savoir que des données sur l'ensemble de la planète, c'est quelque chose d'énorme. Enfin, il faut déjà remercier d'avoir fait ce travail pour les États-Unis, parce que c'est quelque chose de considérable. Il l'a fait uniquement pour les États-Unis. Autrement dit, pour les États-Unis, il y avait des corrections. Bon, on va y venir. Il y avait des corrections qui étaient non justifiées. Pour dire les choses en termes scientifiques. Il n'a pas regardé les autres pays. Mais pour ma part, je pense qu'il y aura sûrement les mêmes problèmes dans les données qui viennent de l'ancienne URSS et de Chine. J'ai beaucoup de mal à penser que les problèmes qu'on a trouvés dans les données américaines, on ne les trouve pas dans d'autres pays qui, vous allez voir, ont un intérêt politique très très marqué à ce que la théorie de l'ESSR soit acceptée. Donc voilà. Alors, voilà où on en est. Ça, c'est officiel, hein, ce sont... C'est sur le site du GISS. Alors, avant de vous donner les données, l'ensemble des données, je vais vous montrer ce qui se passe sur ces sites météorologiques. Vous avez ici un site qui est à Tucson. C'est une ville, hein. Donc c'est un site en milieu urbain. Ici, vous avez un site qui est en milieu rural. Il n'y a pas de différence. Ce sont deux sites qui sont proches, donc normalement les courbes devraient être similaires. Que constate-t-on ? On constate que sur le site rural, eh bien, il ne se passe rien. Il n'y a pas de tendance. Hein. Il n'y a pas de tendance entre 1900 et 2000. Eh bien, ça nous croit. vous savez quoi, beaucoup si ça tombe, mais rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'il y avait dans les années 30, ces fameuses années 30 dont je vous rappelle, dans lesquelles il y avait ce sommet. Si on regarde ce qui se passe dans le site urbain, il y a une croissance constante de la température. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, autrement dit la taille de la ville qui augmente, la consommation d'énergie qui augmente, et également les surfaces qui sont recouvertes de bitume. Parce que recouvrir une surface de bitume empêche l'eau de s'infiltrer, et donc modifie l'évaporation de l'eau. Et modifiant l'évaporation de l'eau, ça modifie la température. Parce que l'eau, en s'évaporant, refroidit la température. Donc, ici, la température augmente à cause, d'une part, de l'îlot de chaleur urbain et, d'autre part, de la modification des sols. Bon, il faudrait également aussi parler du fait que quand la zone s'urbanise, les eaux ruissellent. Les eaux ne rentrent pas dans la terre, les eaux ruissellent. D'une part, parce que c'est aujourd'hui, et d'autre part, parce qu'il y a des évacuations. Bien, donc voilà ce qu'on constate. Et donc ces données doivent être corrigées. Ça, personne ne conteste. On sait bien que les données de sites urbains doivent être corrigées. Mais à partir du moment où elles doivent être corrigées, vous ouvrez la porte à des corrections douteuses, comme celles qu'on a vues tout à l'heure. Puisqu'on est arrivé, on est revenu, en gros, on est passé de cette courbe-là à celle-ci, en étudiant les corrections qui avaient été faites et les erreurs qui avaient été faites dans ces corrections. Alors une fois qu'on a fait les corrections, que voit-on sur le site rural, donc qui est celui qui fait froid, puisque c'est celui qui n'a pas été pollué par le château de l'Orbat, que voit-on avec les corrections? On voit que le maximum qui était en 1934, eh bien, n'est plus le maximum, et que maintenant, le temps présent, qui n'a rien d'extraordinaire, eh bien, devient au contraire le maximum. Ça, c'est pas la vertu merveilleuse des corrections qui sont faites pour tenir compte. Donc, c'est pourquoi. Parce que sur un site rural, vous n'êtes pas qui vaut chaleur urbaine. Voilà la correction. Donc, ici, on passe maintenant sur la station en zone urbaine. Eh bien, ici, vous avez une tendance qui est très marquée, et ça, ça a disparu. C'est un détail, on va pas insister. Mais vous constatez donc que la différence entre ce qu'on obtient ici, c'est-à-dire une tendance très nette, et ce qu'on obtient sur les données qui n'ont pas été pollué par de chaleur urbain, c'est-à-dire en gros une tendance. Il faut comparer celui-ci et celui-ci. Donc voilà ce que permettent les corrections. Corrections nécessaires, parce qu'on voit bien, une autre chaleur urbaine. On le voit bien. On compare ces deux. Mais on s'attendrait à trouver ici quelque chose qui ressemble à ça, ou au moins qui ressemble à ça. Pas du tout. On voit une croissance de la température. Voilà une station météo. Alors vous constatez que ça c'est aux États-Unis, parce qu'il y a un grand débat justement sur ces stations, qui sont mises un petit peu n'importe où. Donc vous constatez qu'elle est en zone urbaine, périurbaine, en particulier donc avec un sol qui a été modifié, qui n'est donc pas vierge, et donc tout ce qui est infiltration des eaux, évaporation des eaux, a été modifié, et ceci joue bien évidemment dans un bilan thermique, dans un bilan de chaleur de la zone, de manière très importante. Alors revenons-en sur ces fameuses données qui nous ont permis d'obtenir la courbe en forme de crosse de hockey. Donc cette courbe que je vous ai montrée, voilà celle-ci. Donc, voilà la courbe en forme de crosse de hockey, et voilà la courbe modifiée. Donc les données brutes sont celles-ci. Alors ce sont des données qui utilisent un ensemble de données. C'est beaucoup de données qui ont été mélangées. Voilà les données brutes. Alors, bien sûr, pas de tendance. Il y a juste un bruit. Pas de tendance, voire rien. Voilà les données traitées. C'est extraordinaire. Parce que ce traitement merveilleux permet de passer de l'un à l'autre. Vous avez donné les groupes qui sont celles-ci, après le traitement, d'obtenir ça. Il faut s'interroger. Et justement, donc, ce canadien s'est interrogé. Comment, d'où vient cette forme de cours en cross de hockey? Il a repris les calculs en supprimant une source de données, que je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs, donc ça c'est avec toutes les données. Il a repris les calculs en supprimant une source de données dont on sait qu'elle est très défectueuse, et il a obtenu ce résultat.
Comme on dit, vous avez une cinquantaine de sources de données.
Vous en avez une à laquelle on a attaché beaucoup d'importance, qui est notoirement qui présente des défauts notoires. Quand on la supprime, on le fait. Tous ces travaux, je vous rappelle, ont été soutenus devant l'Académie américaine des sciences et sont à l'origine de la rectification de la courbe. Donc voilà où on en est. Alors, je vous ai dit que les données avaient été traitées d'une manière toute nouvelle pour obtenir le résultat qui est là. En noir, pas tout à fait en noir. Mais ce Canadien, avec son co-auteur, a montré qu'en utilisant exactement la même méthode, mais en faisant des hypothèses qui sont faites au cours du traitement, eh bien, on peut obtenir toutes les courbes que vous voyez. Autrement dit, vous avez 32 hypothèses, enfin, je crois que 64 en fait en tout. Vous avez 64 hypothèses qui n'ont aucune raison d'être prises l'une plutôt que l'autre. Quand vous les prenez, vous obtenez toutes les courbes qui sont là. Bien sûr, celles-ci, on n'allait pas les prendre. On n'allait pas les prendre parce que ça aurait montré qu'aujourd'hui, il n'y avait rien de particulier. Celle-ci, là, bon, ça serait trop faux. On a pris quelque chose qui correspond à ce qu'il y a aujourd'hui. Et n'importe quoi d'autre est possible. 64 possibilités. On a pris celle qui nous arrange. Bon, là, c'est la même chose. Donc, l'original, donc, est en rouge. Vous voyez en rouge, avec la courbe en cross hockey. Quand vous supprimez la source de données contaminée, vous obtenez ça. Ce qui est en violet, rose, vous obtenez ça, c'est-à-dire pour quelque chose qui, d'une part, ne montre pas de tendance extraordinaire aujourd'hui, et d'autre part, est essentiellement du bruit. Voilà pour les données sur cette courbe de hockey dont on nous a parlé sur l'ensemble de la planète. Tous les journaux, tous les 20 ans, ont ouvert là-dessus. Bien, alors, c'est encore la même chose. Ça, c'est la courbe en cross de hockey, et ça, c'est la courbe que lui obtient sur toute la période à partir de 1400, donc l'optimal climatique médiéval, le postage glaciaire et la sortie du postage glaciaire. Autrement dit, en retraitant les données correctement, on retrouve les. Pas correctement, en retraitant les données telles qu'elles ont toujours été traitées. Avant qu'on utilise cette nouvelle manière de traiter les données, eh bien, on retrouve ce qu'on connaissait avant. Bien, alors, puisque nous sommes ici dans les Alpes, pour en terminer avec le diaporama, et que beaucoup de gens se préoccupent de la fonte des glaciers, oui, les glaciers fondent. Pas tous d'ailleurs, ça dépend des endroits, ça dépend des pays, des parties du globe, mais si on parle uniquement des glaciers, pas simplement de toutes les glaces, que je vois bien, etc. Oui, les glaciers fondent. Les glaciers fondent depuis 1825. Les glaciers fondent. Oui, mais depuis 1825. C'est-à-dire bien avant les émissions de gaz carbonique. C'est la sortie du postage glaciaire. C'est la sortie du postage glaciaire. La température augmente. Les glaciers fondent. Depuis 1820-1830. Aucun rapport avec le gaz carbonique, sauf à prétendre que l'effet est antérieur à la cause. On n'est pas encore. Ça viendra, c'est que la théorie du chaos, on peut en gros tout affirmer. Bien. Quelques. Donc voilà quelques éléments sur la température.
Alors maintenant, je voudrais vous parler, le final vous a sommé sur la question scientifique, je voudrais vous parler un petit peu des modèles. Alors j'ai pris parce que c'est le dernier que j'avais sous la main. C'est le dernier qui m'est arrivé, donc c'était très bien. Donc c'est une lettre qui vient de l'IGPP. L'IGPP, c'est International Geospatial Programme, donc c'est le programme international sur la géosphère et la biosphère. C'est un programme qui a été créé donc par les institutions internationales et qui est totalement favorable à la thèse du réchauffement climatique. Dans ce numéro de mai, c'est le dernier qui me soit paru. Dans ce numéro, vous avez cette courbe qui est ici, donc que vous voyez, c'est pas moi qui suis allé chercher dans une publication obscure, qui est reproduite ici. Alors, il faut savoir que voilà ce que les modèles nous disent. Les modèles nous disent la chose suivante. La physique des modèles nous disent la chose suivante. Bon, d'accord, le gaz carbonique est rejeté par l'homme, et ça va augmenter un petit peu la température. Mais comme ça va augmenter un petit peu la température, il va y avoir de la vapeur d'eau, il va y avoir un réchauffement de la planète, il va y avoir de la vapeur d'eau qui va, de l'eau qui va s'évaporer. Et cette eau qui s'évapore est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le gaz carbonique. Et donc le processus va continuer, comme ceci, bon, jusqu'à ce qu'il se stabilise. Autrement dit, l'hypothèse de base, c'est que vous avez une petite perturbation qui est très amplifiée par la vapeur d'eau. Bon, ce qui est faux pour la raison que je vous ai montré tout à l'heure sur la ligne Io, puisqu'on a vu que la perturbation en fait était amortie. Mais peu importe ça, vous êtes obligé de me faire confiance là-dessus. Bon, ce qui est faux, on sait que c'est faux expérimentalement. Mais on va regarder ce qui se passe là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, si vous voulez, l'idée c'est la suivante. L'idée c'est que quand il va se mettre à pleuvoir, eh bien, les températures devraient augmenter. Alors, on constate, donc on va diviser le globe en trois zones. Vous avez donc les zones tempérées, les zones tropicales et les zones arides. Alors, ça a été fait, c'est pas marqué ici, c'est en Australie. Cette étude a été faite en Australie, donc il s'agit des zones tempérées du sud, ça a été fait en Australie, donc des zones arides et des zones tropicales. Alors on constate la chose suivante, c'est que quand il pleut, on va se focaliser sur les zones arides, elles sont les plus intéressantes, on reviendra sur les autres après, quand il pleut dans les zones arides, on constate que le potentiel d'évaporation, c'est-à-dire l'eau qui va pouvoir s'évaporer, eh bien elle décroît. Autrement dit, plus il pleut, moins il y a d'eau qui peut s'évaporer. C'est complètement invraisemblable. Pourtant, c'est pas moi qui le dis, c'est l'IGPP. Vous ne pouvez pas trouver des gens plus favorables à l'effet de serre qu'IGPP, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent dans une zone tropicale, il n'y a pas de tendance. Quand il pleut, eh bien, l'eau qui peut s'évaporer, elle est constante. Dans les zones tempérées, il y a une petite tendance, il n'y a rien d'extraordinaire. Dans les zones arides, quand il pleut, quand la pluie augmente, l'eau qui peut s'évaporer décroît. C'est au contraire ce que nous disent les modèles. Et c'est l'hypothèse de base des modèles. C'est l'hypothèse de base des modèles, c'est qu'une petite perturbation, une petite augmentation du gaz carbonique va créer une petite augmentation de température qui va être augmentée par l'eau, par la boucle de rétroaction, par l'amplification due à l'eau. Mais là, on est en train de vous expliquer, non, pas du tout. Pas du tout dans les zones arides. Plus il pleut, moins il y a d'eau qui peut s'évaporer. Moins il y a ce gaz à effet de serre très puissant qui est la vapeur d'eau. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement débile, l'histoire. Comment est-ce qu'il est possible, quand il pleut, qu'il y ait moins d'eau qui puisse s'évaporer? La première raison est simple. Mais pour vous montrer le nombre de sottises incroyables qu'on a dit dans la modélisation, il y en a beaucoup d'autres. Je vous ai pris celui de mai 2007. Pour la raison suivante, c'est que dans les zones tropicales, dans les zones arides, quand il pleut, c'est qu'il y a une couche nuageuse qui empêche la température de monter et qui empêche l'eau de s'évaporer. Donc autrement dit, quand vous avez de l'eau qui tombe,
La température, donc il y a moins de soleil, donc vous avez moins d'eau qui s'évapore. Autrement dit, la rétroaction, le feedback principal des modèles est faux dans les zones arides. Alors il est vrai, un tout petit peu dans les zones tropicales, dans les zones tropicales absolument pas, dans les zones arides il est complètement faux. Voilà un exemple de ce qu'on fait sur les modèles. Bon, pour arrêter l'ordinateur, je vous montre tout de suite. Donc vous avez entendu parler du protocole de Kyoto. Bon, c'est un des travaux qui ont été faits à cette date-là, 90-92. L'augmentation de température suivant le dôme de Fessel. L'augmentation de température, si on prend les mesures de Kyoto, on voit qu'on est aux alentours de 0,2, même pas 0,2 degrés. On voit que c'est insignifiant. Totalement insignifiant. On vous dit ici 370 milliards de dollars, c'est faux. C'est très très faux. Ce sont les travaux qui ont été faits en 90. Maintenant, on sait que le coût de Kyoto, ce n'est pas 370 milliards de dollars, mais ce sont des dizaines de milliers de milliards de dollars. Voilà le coût réel. Enfin, en tout cas, on constate que Kyoto, c'est rien. C'est rien, ça fait rien, Kyoto. Par contre, ça change tout au niveau social. Bien, je vais arrêter la machine pour en venir à d'autres choses. Voilà. Bien, donc ça c'était les éléments que j'avais à vous montrer sur un diaporama. Il y en a d'autres. Non, il s'est démarqué qu'il ne faut pas faire. Je suis désolé pour le bruit, mais ou alors il faut que vous veniez. Bon, voilà pour les éléments scientifiques que je voulais vous montrer sur le diaporama. Maintenant. Parfait. Donc, vous savez que le dôme de FSR fonctionne de la manière suivante. On vous dit que, on vous montre des courbes qui prouveraient que le gaz carbonique, que l'augmentation du gaz carbonique suit l'augmentation de température, donc sur les époques géologiques, et que donc, quand la concentration de gaz carbonique augmente, la concentration en température, la température augmente. Et donc on vous montre, enfin, sûrement beaucoup de gens parmi vous, qui ont pu voir des courbes montrant le parallèle entre cette augmentation de gaz carbonique et cette augmentation de température. Alors, c'était l'un des piliers de la théorie de l'effet de serre. Le second pilier, c'est que les modèles montrent très bien que quand on écrit les équations mathématiques, physiques, et qu'on les met dans les ordinateurs, eh bien, on réussit à simuler les climats. Alors, il faut savoir que maintenant, donc, les institutions internationales, et donc l'IPCC, le groupe de travail qui a été fait au niveau mondial pour étudier le climat, ne parle plus de la corrélation entre le CO2 et les températures. Alors vous allez me dire, mais on n'entend que ça à la radio et à la télévision. Oui, mais les scientifiques n'en parlent plus, pour une raison très simple. Très simple. C'est que maintenant qu'on a étudié les glaces, donc les carottes, les carottes glaciaires sur des longues périodes, maintenant on sait que l'augmentation de température précède l'augmentation de gaz carbonique. Autrement dit, la température commence par s'élever, à cause du soleil, et ensuite la concentration de gaz carbonique augmente. Alors vous allez me dire, bon,
D'accord, c'est incontestable. 800 ans après, hein, il y a un délai de 800 ans. C'est incontestable. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est parce que le gaz carbonique se dissout dans l'eau froide. C'est pour ça qu'on met une bouteille de champagne au froid. Pour le gaz carbonique se dissout dedans. Et quand ça chauffe, le gaz carbonique est libéré. Et donc, maintenant, on n'en parle plus du tout. Mais ça n'empêche pas les scientifiques qui ont fait ces travaux de continuer à se pavaner dans les médias, et je les ai encore entendus récemment en France, je vous aime, être invités. Alors qu'il n'a plus rien à dire. Il n'a rigoureusement rien à dire. C'est la température qui provoque l'augmentation du gaz carbonique. Fermez le banc, c'est certain, c'est plus contesté. L'IPCC ne soutient même plus. C'est terminé. Bien. Ça, c'est le premier point. Le second point, on vous dit que... Merci. Le second point, c'est qu'on vous dit que les modèles permettent de rendre compte de l'augmentation de température. Oui, mais les modèles peuvent... Enfin, là, vous êtes obligé de le croire, mais personne ne conteste non plus. En tout cas, pas dans les milieux scientifiques, les modèles peuvent rendre compte de n'importe quoi. Pour une raison très simple, c'est que ce sont des modèles qui ont au minimum 1000 paramètres, et il suffit d'en avoir 5 pour déjà leur permettre de faire n'importe quoi. Donc, si vous voulez... Il n'y a plus aujourd'hui aucune raison scientifique réelle de penser que le gaz carbonique augmente la température. On sait que ce n'est pas le gaz carbonique qui provoque qui force le système climatique. On sait que les augmentations de gaz carbonique n'interviennent que 800 ans après les augmentations de température. On sait que c'est le soleil qui force le climat, ça c'est une évidence. On sait que les modèles sont totalement faux, et ça, personne n'a jamais nié dans les publications scientifiques. Bien évidemment, dans les médias, on va vous dire le contraire. Mais tout le monde le sait, et ce n'est absolument pas contesté. Donc il n'y a rigoureusement aucune raison de croire à ces modèles. Et on sait au contraire que c'est le seul. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les questions scientifiques. Bon, il y aurait bien sûr mille et d'autres choses à dire. Hein. La matière qui manque, mais d'une part le temps, et d'autre part, ensuite ce sont des choses qui sont peut-être moins accessibles. Je pense que tout ce que je vous ai dit est accessible pour que vous ayez eu la patience de suivre, sauf un ou deux petits points, mais qui n'étaient pas fondamentaux. Et puis, donc, il y a des éléments plus techniques, mais qui montrent très clairement également qu'il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit de l'effet du gaz carbonique. Alors, me direz-vous, oui, alors pourquoi? Pourquoi cette levée de bouclier mondiale sur l'effet de serre? Car vous savez bien que maintenant, c'est sur l'ensemble de la planète, enfin, tout au moins sur l'ensemble des pays développés, que on est en train d'imposer les protocoles de Kyoto. Je ne sais pas où vous en êtes particulièrement en Suisse, je vous dis qu'en France, en ce moment, nous avons un Grenelle, enfin, il va avoir lieu dans quelques temps. Nous avons une réunion très importante sur l'environnement qui va réunir tous les acteurs sociaux, tous les acteurs scientifiques, les acteurs politiques pour mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Je vous rappelle, des dizaines de milliers de milliards de dollars pour 0,2 degrés. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est là que les choses deviennent véritablement intéressantes. Il faut bien se rendre compte que derrière Kyoto, derrière le dogme de l'effet de serre, il y a des enjeux qui sont absolument close. Alors, je vais d'abord vous parler des choses les plus superficielles, des choses qui n'ont quasiment aucune importance, si des dizaines de milliers de milliards de dollars n'ont aucune importance. Oui, donc ce sont d'abord des sommes folles, des sommes absolument considérables. Bon, si vous voulez, j'ai l'habitude de manipuler les budgets des États, donc les milliards de dollars, les centaines de milliards de dollars, ça va. Des dizaines de milliers de milliards de dollars, je ne suis pas habitué à ces chiffres. Mais bon, 100 milliards de dollars, on est dans les budgets. Mais là, ce sont des sommes qui dépassent les budgets des États. Ce sont des sommes absolument astronomiques. Alors, il y a d'abord une dimension, et une dimension purement économique. Donc, comme vous le voyez, il y a une dimension qui est purement économique. Alors, pour résumer un peu de mots, et les choses ont été dites clairement, donc je vais d'abord vous les résumer, ensuite je vais vous les prouver. Pour dire les choses en peu de mots, le but du montage sur l'effet de serre, c'est le suivant. C'est que on nous affirme,
sont pas accordés au niveau mondial et la suivante, on nous affirme que les pays développés ont pollué. Ils ont pollué un bien commun, un bien global, un bien commun, qui s'appelle l'atmosphère. Et donc, moyennant quoi, ils doivent s'arrêter de polluer. Par contre, les pays en voie de développement, eux, là, c'est tout à fait différent. Eux ils ne peuvent, peuvent pas se permettre de ne pas se développer, c'est pas possible. On parle de Chinois, ça allait se développer de toute manière, ils ont dit qu'ils se mettaient complètement Kyoto. Même chose pour les Indiens. Donc, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est que les pays développés s'arrêtent de produire du gaz carbonique et que les pays en voie de développement, eux, se développent. Incidemment, ils produisent du gaz carbonique. Alors, les choses ne sont pas exactement comme ça, les choses sont un petit peu plus perverses. On va d'abord dire, on va mettre des droits à polluer. Donc, les droits à polluer vont être donnés aux pays en voie de développement, avec beaucoup moins pour les pays développés. Les pays en voie de développement vont les vendre aux pays développés. C'est le résultat qui est exactement le même. Sauf que on respecte, entre guillemets, l'économie de marché, plus exactement, j'ai pas le temps de développer, mais plus exactement, ça s'appelle du socialisme de marché. Mais ça, c'est une autre question. Ce serait une question beaucoup trop vaste. Donc voilà quel est le fond de l'affaire. Alors, il faudrait que je développe beaucoup plus, il faudrait que je vous explique quels sont les liens qu'il y a entre ce socialisme, vous voyez, c'est du pur socialisme, c'est-à-dire collectivisme au niveau mondial, et la perestroïka, parce que vous pouvez constater, au niveau des dates, que l'effet de serre a commencé à prendre véritablement, eh bien, à partir du moment où il y a eu, à partir du moment où l'URSS est a disparu. Donc l'URSS a disparu, et pour montrer que ce que je dis n'est pas fait, Gorbatchev, après avoir liquidé l'URSS, a écrit un livre qui s'appelle « Search for a New Beginning », la recherche d'un nouveau commencement, et dans ce livre, eh bien, il plaide pour l'instauration donc d'une civilisation écologique, on y reviendra, mais en particulier donc d'un ordre économique écologique. Alors je voulais, je pourrais vous en dire plein, j'en ai plein chapitres. Hein. Je voulais une citation de Boutros Boutros-Ghali, donc l'ex-réalité de président de l'ONU, secrétaire général de l'ONU, pardon. Donc voilà, à Rio, donc devant 170 pays, si mes souvenirs sont bons, 170 chefs d'État gouvernement de pays, je cite. Le surdéveloppement est aussi préoccupant que le sous-développement. Donc le surdéveloppement de l'autre hein, est aussi préoccupant que le sous-développement. Donc il faut arrêter, il faut s'arrêter. Alors, bon, il y en a. Commission sur la gouvernance globale, je vous cite et puis j'ai m'arrêté là-dessus, sur la société mondiale. La Commission sur la gouvernance globale, donc, créée par l'Assemblée générale de l'ONU, je cite, pour que les ressources globales se maintiennent dans des limites raisonnables, autrement dit pour qu'il n'y ait pas un épuisement des ressources naturelles, donc je reprends, pour que les ressources globales se maintiennent dans des limites raisonnables pendant que le niveau de vie des pauvres s'élève, les sociétés riches devront consommer moins. Ça se dit clairement, hein, il n'y a pas aucune ambiguïté. Hein. Les textes internationaux sont remplis de citations comme ça. J'en ai, je ne sais pas quel est le thème de mon chapitre, mais enfin bon, on fait un gros 30 pages. Vous avez 30 pages dans lesquelles c'est expliqué hein, dans tous les sens, dans tous les. Sur tous les registres. Donc voilà. Premier but, un but économique. Alors dans une perspective révolutionnaire, c'est le plus important, c'est pour les révolutionnaires, les buts économiques sont premiers. Pas pour vous. Alors second but fondamental, l'instauration d'un gouvernement mondial. Alors là encore, pour résumer le. Mais c'est pas moi qui le dis, encore une fois, hein. Vous allez voir, je prends pas mes désirs, enfin, entre guillemets, si on peut avoir des désirs pareils, pour les réalités. C'est eux qui vont le dire. Donc, l'instauration d'un gouvernement mondial. Là encore, la rhétorique est imparable. Vous avez un problème global. C'est un problème global. Problème dans lequel le geste de chacun touche la collectivité. Vous avez un problème global, il ne peut être résolu que par un gouvernement mondial qui serait capable d'imposer sa volonté aux divers États, et en particulier aux États récalcitrants. Fermez-vous. Alors, est-ce que c'est moi encore qui l'invente ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors,
Je vous prends donc une citation qui est extraite du rapport de la conférence de Rio, donc 1992, 170 pays, une vingtaine, une trentaine d'organisations internationales, telles que bien évidemment l'ONU, la Banque mondiale, enfin, etc. Et donc, dans le corps du rapport, répété à plusieurs reprises, à au moins deux reprises, la chose suivante que je vous dis, je vous demande de faire bien attention, parce que c'est assez stupéfiant, donc ce rapport a été accepté par les 170 pays, et je peux vous garantir que tous les mots sont négociés. En particulier, quand on a les versions intermédiaires, on voit que tous les mots sont négociés, et que certains mots sont entrecrochés, destinés donc à être négociés ultérieurement. Donc voilà ce qui a été accepté. Je cite. Le processus intergouvernemental de suivi de la conférence, donc il s'agit de la conférence de Rio, s'inscrira dans le cadre du rôle joué par les organismes des Nations Unies, l'Assemblée Générale étant l'organe suprême chargé de fournir les orientations d'ensemble aux gouvernements, aux organismes des Nations Unies et aux organes créés en appui de l'ONU. Ça a été signé par 170 pays. L'Assemblée Générale étant l'organe suprême chargé de fournir les orientations d'ensemble aux gouvernements. Donc, droite et gauche, rien ne change. Parce que l'Assemblée Générale étant l'organe suprême chargé de fournir les orientations d'ensemble aux gouvernements. C'est écrit clairement, il n'y a pas matière à interprétation. L'Assemblée Générale étant l'organe suprême chargé de fournir les orientations d'ensemble aux gouvernements. Bien, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est déjà beaucoup. Donc une gigantesque imposture scientifique, alors, il faut contester le mot, hein. Vous avez dit le mécanisme, je ne dis pas que les scientifiques qui le fassent soient conscients de l'imposture. Mais le résultat, le bilan en bas de la page, quoi, c'est un montage scientifique qui n'a aucun rapport avec la réalité, un socialisme mondial, un gouvernement mondial. C'est bien. C'est bien, mais c'est rien. C'est bien, mais ça, c'est du vent. C'est du vent. Ça, c'est de la politique pour les matérialistes. Et on va se rendre compte que les matérialistes ont bien changé. Alors, je vous ai dit que Gorbatchev a écrit un livre, après au moment de la période historique, qui s'appelle « À la recherche d'un nouveau commencement ». Il faut traduire par « À la recherche d'une nouvelle genèse ». Et dans cet ouvrage, Gorbatchev plaide pour un certain nombre de choses, on reviendra peut-être sur certaines, mais en particulier pour la création d'une civilisation globale. Alors là, tout d'un coup, on sait qu'on change totalement le registre. Ces gens, maintenant, ces matérialistes, athées, révolutionnaires, ça va changer, parlent explicitement de créer une civilisation globale. C'est totalement invraisemblable. Si vous regardez l'état de la politique en Europe, ces questions ne sont jamais traitées. On n'en est pas à ce niveau-là. On en est sur des petits combats mesquins, sur des détails insignifiants, comme c'est en France, comme c'est très probablement le cas en Suisse, et comme c'est le cas un petit peu partout. Mais là, tout d'un coup, eh bien, ces gens-là veulent créer une civilisation globale. Et là encore, eh bien, les choses sont acceptées par tous les pays. Je vous lis, pour vous montrer que l'idée date d'il y a très longtemps, je vous lis ce qui figure dans le protocole de la conférence de Stockholm à l'ONU, donc c'était 1972 Stockholm, 1992, 20 ans plus tard, le suivi à Rio. Eh bien, cette chose absolument stupéfiante, encore une fois, alors acceptée par combien, signée par je ne sais combien de pays, là je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas par un important pays, donc, voilà le paragraphe que je vous lis. Je cite, vers une redéfinition des projets de civilisation. L'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'environnement, globales et à long terme, reposent sous un jour nouveau le problème des cultures, ainsi que celui du développement, définir et sélectionner les options qui s'offrent dans l'environnement dans lequel nous voulons vivre, suppose un ensemble de choix sociaux et culturels fondamentaux, une redéfinition des projets de civilisation propres à chaque pays. Absolument incroyable, n'est-ce pas? Et attention, ces gens ne sont pas des imbéciles. Vous n'avez pas pensé que ce soit des gens qui emploient des mots à la place d'autres. Ce sont des gens parfaitement instruits, qui connaissent c'est parfaitement le sens du mot, quand ils parlent de civilisation, ils parlent de civilisation. Ils veulent simplement créer une nouvelle civilisation. Mais d'un coup, on s'arrête, hein, je dis, mais attendez, la civilisation existe déjà. Alors, je ne sais plus qui le disait, je crois que c'était Sapidis. La civilisation existe déjà. C'est la civilisation chrétienne. Et oui, la civilisation existe déjà. Si vous voulez redéfinir une civilisation, il y a fort à parier que vous allez en profiter pour écraser la civilisation chrétienne. Et c'est effectivement, on va le voir, c'est effectivement ce que ces gens-là font. Alors vous voyez que là, on va totalement changer le registre. Avant, on va dire des questions scientifiques totalement insignifiantes. J'ai insisté très longtemps parce que dans un débat politique, malheureusement, on est obligé de mettre les mains dans le cambouis et de parler de ces questions-là. Alors, je sais que ça va sûrement enquiquiner un certain nombre d'entre vous, mais c'est fondamental. C'est la base du discours. C'est la base de la révolution écologique. Mais c'est pas ça dont il s'agit. C'est pas ça, c'est un gigantesque mensonge. Autrement dit, on a pris une dizaine, une vingtaine de laboratoires d'informatique sur l'ensemble de la planète, grassement financé par les États, avec tous les prébendes, tous les honneurs possibles et imaginables. Ces gens savent parfaitement dans quel sens il faut aller. Et moyennant quoi, avec ces 20 laboratoires, on est en train de nous servir une histoire qui va mettre la révolution sur l'ensemble de la planète. Attendez, là, il y a quelque chose, là, il faut s'interroger. Il faut s'interroger, car une fois qu'on aura accepté la théorie de l'effet de serre, il faudra accepter la révolution économique, il faudra accepter la révolution politique, le gouvernement mondial, et la nouvelle civilisation sur laquelle, dont je vais parler plus longuement. Donc c'est un engrenage, c'est un mécanisme appliqué. Et vous allez me dire, peut-être que vous êtes pessimiste, peut-être que vous exagérez, mais pas du tout, on l'a déjà vu. Je rappelle que la communauté acier-charbon était destiné uniquement à faciliter les échanges, l'acier et le charbon, entre les pays membres. Bon, peut-être que ça ne vous rappelle pas grand-chose, parce que vous n'étiez pas directement concerné, mais voilà comment l'Europe a commencé. Et surtout, non, ça n'a rien à voir avec un gouvernement européen. Non, mais vous le promettez, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. C'est promis. Nous avons un politicien qui s'appelle Charles Pasqua qui a eu cette sentence, qui est restée fameuse. Les promesses des politiciens n'engagent que les électeurs. C'est resté. Donc, on commence à... Oui, pardon. C'est un collectif. Hein. On peut y avoir des exceptions. Donc, on en est là. On est en train de redéfinir, de créer un projet de civilisation. Alors, là je vous demande, de comprendre, de mesurer le problème. Parce que, enfin, vous allez voir, c'est pas terminé. Désolé, je commence à dépasser sur mon temps, mais vous allez voir, c'est pas terminé. Vous voyez, on entend souvent dire une sottise absolue, on entend dire en France, je ne vois pas raison pour que ce ne soit pas la même chose. En Suisse, on dit la droite et la gauche, c'est pareil, les politiciens ne peuvent rien faire. Bien sûr, ils font la même chose. La droite et la gauche font la même chose. Ils font ce que leur a demandé l'Assemblée générale de l'ONU, qui est chargée de donner les orientations générales des gouvernements. Et ce qu'ils font n'a aucun rapport avec les objectifs déclarés. Rigoureusement aucun. L'effet de serre, ils sont véritablement en train de faire quelque chose, et de le faire au pas de charge, et de le faire en cassant toutes les oppositions. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vous dit. Donc, une civilisation globale. Alors, je vais insister un petit peu. Je crois qu'il faut partir d'un point fondamental qui est le suivant. C'est que nous vivons dans une civilisation catholique. On le veuille ou non. C'est comme ça. Que ça nous plaise ou non, c'est ainsi. Je vais vous donner un exemple qui est très très important, qui est le suivant. C'est qu'on vit sur la conception de l'homme comme étant créé, voulu, directement par Dieu. Chaque homme a été voulu directement par Dieu. Chaque homme, chaque âme a été créée directement par Dieu. Donc, chacun d'entre nous a été voulu, il a été créé par Dieu. Il n'est pas le produit du hasard, il n'est pas le produit de l'évolution, il a été voulu par Dieu. Alors, bien évidemment, avec une conception pareille de l'homme, ensuite, après, bien évidemment, l'homme est pécheur. Il doit être racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Mais il a été créé par Dieu. À partir du moment où vous avez une conception, cette conception de l'homme, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles. Vous n'allez pas pouvoir euthanasier l'homme. Vous n'allez pas pouvoir l'avorter. Vous n'allez pas pouvoir le manipuler génétiquement. Autant de choses qui sont en train de se faire. Donc ce que je veux vous dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, notre civilisation, dans ses fondements, dans ses racines, est restée chrétienne. Il reste des choses très profondes de la chrétienté. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas énormément de choses qui ont disparu. Il suffit de se plonger dans les textes des années 50 et du début du XXe siècle pour voir le chemin infini qui a été parcouru. C'est absolument stupéfiant. Donc évidemment, plein de choses ont changé. Mais il reste une base qui est totalement catholique. Et cette base-là, il faut la détruire. Vous ne pouvez pas instaurer un gouvernement mondial dans lequel l'individu n'aura pas de l'importance. Vous ne pouvez pas tout analyser les gens, les manipuler génétiquement, les apporter, les sélectionner, faire un tri après un implantatoire, enfin, etc. Toutes les abominations que vous connaissez, vous ne pouvez pas si vous pensez que chacun est voulu par Dieu. C'est pas possible. Donc il faut modifier ça. Donc on est en train de modifier, de redéfinir l'essence de l'homme. Je me permets cette énormité philosophique, de redéfinir l'essence de l'homme. Ce que sont en train de faire les institutions internationales. Alors comment est-ce qu'elles le font? Eh bien, en particulier par la bioéthique. Donc comme je viens de vous le dire, il y a un certain nombre de choses pratiques qui sont en train de se développer. Et bien entendu que quand vous avez avorté 5 fois, que vous avez euthanasié vos parents, vous avez du mal ensuite à penser que qu'ils avaient été voulus directement par Dieu. Il y a un problème. Donc par la pratique, on est en train de faire passer des idées qui sont en fait des idées philosophiques. On est en train de redéfinir l'essence de l'homme. Et on est en train de le faire également par l'effet de serre. Parce que l'effet de serre a, c'est fondamentalement une conception philosophique. C'est la conception. C'est le panthéisme. Ce qu'il y a derrière l'effet de serre, c'est le panthéisme. Que dit-on dans l'effet de serre? On dit ce que vous faites, vous, ici, en Europe, ça influence ce qui va se passer en Chine. Le gaz carbonique que vous brûlez, enfin, que vous dégagez, en Europe, va réchauffer la Chine. Va réchauffer les Indiens de l'Amazonie. Vous êtes un criminel dont les crimes se répercutent sur l'ensemble de la planète. On a vu ce qu'il fallait en penser, mais la rhétorique elle est là. Autrement dit, vous êtes relié à l'ensemble de la planète. Mais ça, c'est du cahier de Chardin. Vous êtes une unité cosmique qui fait partie du grand tout. Et vos actes réagissent sur le grand tout. Ça, c'est du pur panthéisme. Et c'est exactement ce que ces gens-là sont en train de nous imposer. Alors vous allez dire, là, ce que là, vous prenez vos plaisirs, vous allez, là, vraiment, vous êtes un petit peu fort. D'abord, ces gens-là sont des sous. Non, ce ne sont pas des sous. Je vous rappelle, ils sont en train de créer une nouvelle civilisation. Mais, je vous demande d'écouter. Voilà ce qui a été déclaré, et je pourrais vous en donner tout un livre. Je suis en train de préparer un livre sur ces aspects. Je vous demande d'écouter ceci. Donc, ONU, conférence de Copenhague, donc 1995. Bon, j'ai déjà du 5. Donc, je cite. La dichotomie radicale entre l'esprit et la matière, le corps et l'âme, le sacré et le profane, l'homme et la nature, ou le créateur et la création, doit être transcendée pour permettre aux valeurs telles que la sacralité de la terre, la continuité de l'être, c'est-à-dire que tous les êtres sont en continuité, la continuité de l'être, l'interaction bénéfique entre la communauté humaine et la nature, et la réciprocité entre l'humanité et le ciel, donc réciprocité entre l'humanité et non l'homme individuellement, c'est moi qui le dis, et le ciel, de recevoir toute l'importance qu'elle mérite en philosophie et en théologie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vision holistique. En termes de New Age, c'est le panthéisme. Hein, je relis la dichotomie radicale entre l'esprit et la matière. On dit la matière est l'esprit. L'esprit et matière, dans le panthéisme. Le corps et l'âme, c'est du panthéisme. Le sacré et le profane, autrement dit, la nature est gracieuse. La nature est gracieuse. Le sacré et le profane, il n'y a pas de distinction entre le sacré et le profane. Même dans le panthéisme, la nature est gracieuse. L'homme et la nature, la créateur, le créateur ou la création. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre le créateur et la création. C'est ça, c'est le panthéisme brut. Là, je sais plus. Bon, etc. La continuité de l'être, ça c'est merveilleux, ça. La continuité de l'être, c'est la ONU, conférence de Copenhague, c'est une conférence de consensus. D'ailleurs, le titre de la conférence est du seul, enfin, le titre de l'ouvrage est du seul, mérite d'être cité, dimensions éthiques et spirituelles du progrès social. Bon, etc. Il y en a. Des paquets. Donc vous voyez. Alors j'ai pas eu le temps d'insister suffisamment sur le lien qu'il y a entre l'effet de serre et la vision holistique. Mais c'est ça, fondamentalement. Le but véritable de la rhétorique sur l'effet de serre, c'est de vous faire comprendre que vous n'êtes qu'un élément du grand tout. Parce que nous vivons toujours sur une vision catholique. Bien sûr, nous vivons en société. Bien sûr, nous avons des devoirs envers notre et nos prochains. Bien sûr, nous avons des devoirs d'État, des devoirs envers notre patrie, envers la société. Mais notre premier devoir, c'est de nous sauver, nous-mêmes, individuellement. Et ensuite, d'aider notre prochain à se sauver. Mais nous sommes d'abord tenus, nous serons d'abord jugés sur nos actes. Sur nos actes. Et là, on vous fait comprendre que vos actes ne sont pas isolés. Vous faites partie du tout, du grand tout. Vous polluez ici, ça se répercute là. Il n'y a rien à faire. Donc ça, vous voyez, c'est absolument génial, il faut le dire. C'est de réussir à faire passer des opinions philosophiques, car ce sont des opinions philosophiques, il faudra en discuter, parce qu'on a vu que le fond de l'affaire, c'est la confusion entre la créature. Et la création, c'est dit explicitement que la dualité entre la créature et le créateur doit être dépassée. Entre la nature et la grâce. Ce sont des opinions philosophiques, voire théologiques, quand on parle de la nature et de la grâce, qu'on fait passer grâce à un message écologique. Admirons l'artiste. C'est absolument extraordinaire. Mais alors là, c'est maintenant, si vous comprenez le pourquoi de... cette machine de guerre infernale qu'elle fait serre. Parce que les enjeux sont absolument transcendants. On ne parle plus de dizaines, de milliers, de millions de dollars. Non, on parle du salut de votre âme. C'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. C'est d'un autre ordre. Donc ça, c'est pour que les mots soient prononcés, hein, c'est le changement de paradigme du Nouvel Âge. Donc le changement de paradigme du Nouvel Âge, c'est passer de la pensée chrétienne, individuelle, chaque individu a été créé, voulu par Dieu, est responsable de lui, de ses proches, de son Dieu, à la vision holistique, donc holos, le tout, la vision du tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous appartenez au tout comme moi d'ailleurs. Pas de différence entre vous et moi à ce sujet, mais parce que t'es dans tout. Bien, alors, je vois que le temps passe. Donc, une action purement philosophique. C'est extraordinaire de voir qu'on travaille à ce niveau-là, on travaille explicitement à ce niveau-là. Attention, je vous rappelle ce qu'il dit, mais je vois plus. C'était des centaines. Donc la dichotomie radicale donc, entre le créateur et la création doit recevoir toute l'importance qu'elle mérite en philosophie et en théologie. Ce sont des gens qui se préoccupent de questions philosophiques et de questions théologiques. C'est écrit noir sur blanc dans un, dans les comptes, dans les actes de la conférence de l'ONU de Stockholm. Donc l'ONU, comme vous savez, qui est chargée de donner les lignes directrices aux divers gouvernements. Donc voilà, voilà ce dont il s'agit. Bien. Alors, on est en train donc de véhiculer cette révolution philosophique, spirituelle, par le biais de l'FSR, et il y a des choses qui sont en train de sortir petit à petit, je ne sais pas où vous en êtes en Suisse, hein, mais c'est la question de l'éthique globale. Donc en ce moment, la rédaction d'une éthique globale est achevée, donc c'est Hans Kuhn qui a fait ça, ça a été publié, ça a été traduit en français, donc vers une éthique globale, on est en train de nous définir une éthique globale. Alors vous allez me dire, oui, Hans Kuhn, c'est un théologien, mal avec Rome, non ? Non, pas mal avec Rome, comme vous savez, le 16 a reçu fort longtemps. Mais, enfin, en tout cas, il n'est pas encore représentatif de Rome. Alors je voudrais vous lire, là encore, je pourrais vous en lire des centaines, comme celle-ci, une citation de Federico Maior, qui à l'époque était directeur général de l'UNESCO, donc qui dit. Donc dans le projet de plan moyen terme de l'UNESCO, c'est le document le plus officiel qu'il puisse y avoir, qui dit la chose suivante, la bataille pour l'environnement, je cite, la bataille pour l'environnement ne sera gagnée que si elle est fondée sur une éthique nouvelle des rapports de l'homme avec la nature. Donc l'éthique est fondée sur les rapports de l'homme et la nature. Faite de droit, de devoir et de solidarité. Il est temps de doter la collectivité internationale d'une morale qui sera à la mesure de ses pouvoirs. Oui, pouvoir fini comme on l'a vu, puisque en charge de donner les directives à toutes les nations. Donc c'est dit explicitement, il faut créer une éthique nouvelle des rapports de l'homme avec la nature. Donc l'éthique sera basée sur les rapports de l'homme avec la nature. Alors là encore, moi, je vous demande de faire attention. On a changé de registre. On était dans des questions scientifiques, on était dans des questions de pollution, et on arrive dans des questions d'éthique. C'est plus du tout pareil. C'est dit clairement. C'est pas moi qui l'invente. Alors je devrais vous citer cette éthique globale, donc définie par Hans Kuhn. Je vais la résumer, hein, je suis obligé. Je vais la résumer en deux mots, de quoi s'agit-il. Ne faisant partie du tout, un péché ne se juge que par rapport au tout. Par exemple, polluer, c'est une agression contre le tout. Donc c'est un péché. Voilà. Le péché n'est plus une offense faite à Dieu. Le péché est une offense faite au tout. Et aujourd'hui, le tout, c'est encore la Terre. Bien sûr, c'est pas simplement la Terre, hein, parce qu'il y a les visions cosmiques. Ensuite, on vous expliquera que le tout est cosmique. Mais on va quand même. Donc, stop. Si le péché, c'est ça, cette éthique globale, elle est anti-chrétienne. On ne peut pas dire anti-chrétienne, mais elle est anti-chrétienne. Si on définit un péché comme étant une offense faite à la terre, on a changé de civilisation, tout simplement. Bien, je vais terminer en vous parlant de la spiritualité globale. Alors, pour des Français, ça paraît invraisemblable. Pour les Français, on ne peut pas imaginer, dans une république publique, laïque et obligatoire. Enfin, en France, c'est l'éducation qui est laïque et obligatoire, mais j'aime bien dire que la république est laïque et obligatoire. Donc, dans une république laïque et obligatoire, comme la république française, on ne peut pas imaginer qu'au niveau mondial, on soit en train de nous concocter une spiritualité globale. Donc en France, en général, les gens rechignent un petit peu. Mais pas du tout. C'est exactement ce qu'on va se faire. De manière totalement délibérée, encore une fois. Et les mots ont leur sens. Vous comprenez le mot spiritualité globale. Croyez-moi que les gouvernants qui sont à l'ONU ne sont pas des âmes. Ça, exactement. Quand tu parles de spiritualité globale, c'est bien de cela dont il s'agit. Alors, tenez, je vais vous lire ceci. Alors, nous devrions nous engager dans une direction œcuménique. Donc là, on connaît Vatican II, là on se rapproche de Vatican II, mais je n'en parlerai pas parce que ce serait un sujet sans fin. Nous devrions nous engager dans une direction œcuménique, reconnaître l'unité transcendante des religions et soutenir que l'esprit est un et ses réflexions sont multiples. Donc l'unité transcendante des religions, ça c'est un terme occultiste qui signifie simplement que toutes les religions ont un seul Dieu. Alors, je vais vous citer autre chose, des choses plus... Celui que je viens de vous citer est très très préparant, mais il demande peut-être d'être plus familiarisé avec une certaine littérature. Je vais vous citer Boutros Ghebreyesus, qui parlait, toujours en sa qualité, de secrétaire général de l'ONU, à Rio, en 1992, donc devant 170 représentants chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais conclure... Je voudrais conclure en disant que l'esprit de Rio doit créer, donc l'esprit de Rio doit créer un nouveau comportement des citoyens. Après avoir aimé son prochain comme lui demandait l'Évangile, l'homme de Rio doit aussi aimer le monde, y compris les fleurs, les oiseaux, les arbres, tout cet environnement naturel que nous détruisons régulièrement. C'est la limite du blasphématoire. Enfin, c'est une question théologique. Là. Y a-t-il un blasphème? Je ne sais pas. Bon. Mais enfin, en tout cas, ça sent le blasphème. Toujours pour troisième. Au-delà et au-dessus du contrat moral avec Dieu, au-delà et au-dessus du contrat social conclu avec les hommes, il faut maintenant conclure un contrat éthique et politique avec la nature, avec cette terre mère, avec cette terre même à qui nous devons notre existence et qui nous fait vivre. Bon, là encore, au-dessus, au-delà et au-dessus du contrat moral avec Dieu, ce sont des choses quand même confiantes. Quand on ose, quand l'ONU ose dire qu'elle va promulguer une loi qui est au-delà du contrat moral passé avec Dieu. L'ONU, cette fameuse conférence de l'ONU sur les dimensions éthiques et spirituelles du développement, je cite, en résumé, l'esprit de notre temps révèle une conscience croissante de l'échelle du paradigme, c'est-à-dire de la mentalité, du développement qui a dominé la pensée de ce siècle et des nombreuses sortes de problèmes qu'il a engendrés. Il a même mis en danger l'existence de l'homme. L'alternative est évidente. Nous avons besoin d'une conception du développement plus holistique, c'est-à-dire totalisante. Et ceci ne peut être réalisé qu'en introduisant l'élément qui manque tragiquement, à savoir les dimensions éthiques et spirituelles du développement. De fait, la dimension éthique et spirituelle nous est aussi indispensable que l'air que nous respirons. Le seul problème qui surgit peut-être, c'est que compte tenu de la diversité des traditions religieuses et spirituelles, il nous faut une philosophie holistique, du développement holistique, du nouveau religion, du développement qui prenne en compte leurs différents enseignements, autrement dit, aussi bien les enseignements hindouistes, qui sont les enseignements panthéistes, que les enseignements catholiques ou les enseignements maçonniques. Conférence, toujours à la conférence de Copenhague, la spiritualité n'est plus réduite au lieu de prière et à la vie privée. Elle peut être addictée, etc. La spiritualité n'est plus réduite au lieu de prière et à la vie privée. Mais, attention, ce sont des gens qui s'expriment de manière totalement correcte et qui ont les moyens de mettre en place ce qu'ils disent. Quand ils vous disent que la spiritualité n'est plus réduite au lieu de prière et à la vie privée, vous pouvez être certain que ça viendra très rapidement. Tout ce qui, depuis la perestroïka, tout ce qu'ils annoncent se fait. Autrement dit, depuis la perestroïka, on est sorti des discours creux, verbeux, et on n'énonce plus que des stratégies qui seront véritablement mises en œuvre. Une autre question, la question fondamentale est la suivante. Qu'est-ce que la condition humaine? Pourquoi sommes-nous ici? Nous devons imaginer une nouvelle perspective en restant enracinés dans les valeurs spirituelles de chaque tradition. Voilà. Voilà ce qu'il en est, véritablement, de la question des faits de sœurs. Donc la question des faits de sœurs vous parle de science, vous parle de réchauffement, et focalise le débat sur
des questions de ressources, des questions de dizaines, de milliers, de milliards de dollars. Puis on va se battre pour savoir s'il va y en avoir 10 ou 15 ou 20 ou 5. Et c'est pas l'enjeu. L'enjeu n'est pas du tout là. L'enjeu, c'est un changement de paradigme, un changement de perspective. C'est sortir d'une vision hiérarchique, d'une vision traditionnelle du monde, de l'Église, donc Dieu en haut, son représentant sur terre, l'Église, les fidèles, à une vision holistique, tout au même niveau. Tout est dans tout. Ce que chacun fait influe sur les autres. Et ensuite, partant de là, en tirer les conséquences, qui sont une nouvelle éthique, une nouvelle spiritualité, etc. Alors, puisque j'en suis là, je vous le signale, pour les gens qui connaissent bien Vatican II, vous voyez que les liens avec Vatican II sont très forts. Vatican II a été également une destruction de la hiérarchie. L'œcuménisme, c'est également dire que toutes les religions sont valables, que l'humanité forme une grande fraternité, c'est encore la vision holistique. La destruction du Saint-Sacrifice s'explique de la même manière, puisque tous les hommes sont sauvés, le sacrifice a été réalisé une fois pour toutes, ce n'est plus qu'un mémorial, ce n'est plus qu'un mémoire, etc. Et donc on voit toute l'articulation qu'il y a entre Vatican II et ce dont je vous ai parlé. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai assez parlé.
L'imposture qui nous est chaque jour, quotidiennement, livrée par les médias. Je me fie déjà, vu le temps froid que nous avons connu ces derniers étés, que le réchauffement qui nous est accompagné tous les jours était peut-être une légende. Mais aujourd'hui, nous avons en plus les arguments scientifiques. Ce sera l'occasion pour nos candidats aux prochaines élections de pouvoir débattre, car aujourd'hui, dans le monde politique, il y a une sorte d'unanimité dans cette théorie du réchauffement causé par l'homme, qu'il faut punir par des taxes, par toutes sortes de contraintes. Vu le temps écoulé, nous allons terminer là, nous allons passer à l'apéritif, nous aurons l'occasion, et chacun aura l'occasion encore, de se tenir avec vous, de vous poser des questions.
C'est exactement ce que j'ai été prévenu. 1h37.
Oui. Ah, c'est ce à quoi...